Bienvenue Christine Meunier.
Bonjour.
Nous sommes enchantés de t'accueillir pour ces entretiens ILCB Fête 3C. Tu connais le principe, je crois.
Oui.
Et Vincent, de toute façon, va peut-être te le rappeler, puisque c'est lui qui va commencer avec la première partie.
Oui, bah, merci encore d'avoir accepté
merci
notre invitation.
À vous, ouais.
Ça nous fait plaisir de te recevoir. Donc on va commencer cette première partie déjà en exposant un petit peu les grandes étapes de ton parcours, et puis je te laisserai la parole juste après pour que tu nous dises un petit peu comment t'en es venu justement à cette thématique de recherche. Donc tu es actuellement directrice de recherche au LPL, mm-hmm. Tu es également la directrice du LPL depuis cette année, c'est ça, il me
depuis
semble
janvier, ouais,
depuis
ça.
Janvier,
ouais.
Félicitations. et quelques dates de ton parcours académique. Donc, j'avais vu que tu avais obtenu ton DEA de phonétique, ça s'appelait un DEA à l'époque,
mm-hmm.
un DEA de phonétique en 1987. Mm-hmm. Tu as obtenu ton doctorat de phonétique en 1994 et tu as passé ton habilitation à diriger les recherches en 2014. Tu as effectué un stage postdoctoral, il me semble que c'était à l'université de Genève. C'était avec Ulrich, alors j'espère que je n'ai pas écorché
Ulrich
son nom.
Hans.
Ulrich
Hans.
Hans Frauenfelder.
Frauenfelder, oui.
Frauenfelder.
Ouais, ouais. On l'appelait Uli, en fait. Ouais. Uli.
Ah oui, d'accord, c'était un...
Diminutif.
Un diminutif.
Oui, c'était Ulrich. Et donc sur une thématique plutôt psycholinguistique. Donc, mm-hmm. Là, on voit déjà qu'il y a déjà un passage de la phonétique à la psycholinguistique. Tu nous expliqueras un petit peu comment t'en es venu à aborder justement des questions psycholinguistiques. Et donc tu as obtenu aussi plusieurs financements, plusieurs projets de recherche, ANR, des projets qui ont été financés à travers le BLRI. Mm-hmm. Puis tu as encadré bien sûr un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes en thèse, en post-doc. Mm-hmm. Donc, la première question que j'aimerais te poser, c'est déjà, avant ce passage qu'on évoquait de la phonétique à la psycholinguistique, mm-hmm. comment en es-tu venu justement à la phonétique
oui.
en tant que tel?
Alors, il se trouve que moi, j'ai fait des études littéraires. J'ai eu un bac littéraire, j'ai commencé sur des études de littérature et d'espagnol. J'ai fait une hypocagne, en fait, donc une prépa littéraire et... J'ai continué sur un intérêt sur les langues qui était assez fort en fait. Donc j'étais partie sur une licence d'espagnol et il se trouve que en faisant ces études sur les langues, mais aussi sur la littérature, j'étais amenée à suivre des cours de linguistique qui étaient en option en fait. Et il y a un professeur dont je me rappelle pas du tout le nom, le pauvre, mais c'était en espagnol en l'occurrence, qui nous avait mentionné complètement au hasard dans un cours en fait, parce qu'on faisait de la phonétique espagnole, c'est-à-dire les sons de l'espagnol, et qui nous avait mentionné le fait qu'il y avait des endroits, des laboratoires de recherche où les gens travaillaient sur les descriptions acoustiques et physiologiques en fait des sons, mais surtout acoustiques. Et je pense que comme beaucoup de gens en fait, on est souvent canalisé sur, on est catégorisé en fait dans un type d'études, et que ce côté littéraire me plaisait beaucoup, parce que il y avait le côté analytique qui me plaisait beaucoup, mais que le côté scientifique d'un autre côté, et en tout cas, ces aspects mesures physiques étaient quelque chose qui m'attirait aussi énormément. Et le fait de, moi, en entendant ce professeur, il a dû parler 10 minutes de ça, même pas, ça a attiré énormément mon attention, en fait, de me dire qu'on pouvait joindre les deux, en fait, c'est-à-dire travailler sur des choses qui étaient à la fois un peu abstraites et de l'ordre des représentations, en fait, et plutôt sciences humaines, en fait, mais qu'on pouvait y joindre, en fait, de l'aspect un peu plus scientifique et mesures physiques. En fait, à l'époque, ce n'était pas expérimental, c'était vraiment mesures physiques, en fait. Et du coup, j'ai continué sur une licence, là, par contre, de linguistique. Et là, j'ai eu un professeur, on avait toutes les disciplines de la linguistique, et j'avais un professeur de phonétique où on faisait de la phonétique théorique, d'une certaine façon, on ne mesurait rien, mais l'approche, en fait, qui était donnée là-dedans m'a énormément plu, en fait. C'est vraiment ce qui m'intéressait le plus. Et c'est lui qui m'a, je lui ai posé la question en fin d'année, je lui ai dit, mais où est-ce qu'on fait ça, vraiment? Parce qu'en fait, là, c'était une option, quoi, en fait. Et il m'a indiqué deux laboratoires qui étaient il y avait le laboratoire à Paris à l'époque qui est devenu actuellement le LPP, en fait, où il y avait Jacqueline Vessière, en fait, qui était très connue dans ce laboratoire. Et il m'a indiqué le laboratoire d'Aix-en-Provence, en fait. À l'époque, il y avait Mario Rossi, il y avait Albert Di Cristo, il y avait Daniel Hurst. Et il venait juste de publier un ouvrage qu'on a appelé le Livre Rouge, mais qui s'appelait de l'intonosyntaxe à la microprofile. Ça, c'est la thèse d'Albert. Mais c'était un ouvrage sur l'intonation, ce qui était donc sur la prosodie, en fait, et qui c'était assez novateur à l'époque, en fait. Hein, il n'y avait pas. Du coup, j'ai acheté ce livre alors que j'étais encore à Paris. Je viens de Paris. Et j'ai rien compris, hein, parce que c'était pas du tout mon domaine, j'ai absolument rien compris. Mais bon, le challenge m'intéressait, donc je suis venue faire à l'époque ma maîtrise, en fait, à Aix-en-Provence. Donc voilà, je me suis lancée à cette période-là dans les études. Là, c'était une maîtrise de linguistique, mais dedans, il y avait des aspects phonétiques, et là, on commençait vraiment à travailler sur des aspects beaucoup plus. À l'époque, il y avait de la physiologie, puisqu'il y avait Denis Hautser, en fait, qui travaillait sur ces aspects-là, articulatoires, physiologie, comment on produit les sons de la parole. Il y avait aussi des aspects perceptifs, mais pas au sens où on... Enfin, moins au sens où on l'entend maintenant, c'est-à-dire c'était beaucoup de la perception. Il y avait beaucoup de psychoacoustique aussi, donc de choses comme ça, et des choses qui étaient en rapport avec la perception des sons du langage, en fait, et de la phonétique un petit peu plus théorique. Et donc, j'ai continuer mon parcours là-dedans.
Et donc, juste une petite précision, tu avais Rossi, Hurst, voilà. Di Cristo, tu les avais en cours?
Voilà, je les ai eus en cours à la fois en maîtrise et puis en DEA après. Et donc, beaucoup de... La thématique quand même du laboratoire à l'époque, c'était beaucoup la prosodie, en fait, hein, l'étude de la prosodie. Et moi, je n'ai pas fait ça. J'étais assez intéressée par vraiment ce qu'on appelle le segmental, c'est-à-dire l'étude des voyelles, consonnes, etc. Et j'ai fait ma thèse avec Mario Rossi, en fait, à l'époque. Alors, ce n'est pas un bon exemple, enfin, ce n'est pas lui, hein, mais moi, parce que j'ai... Enfin, pour les doctorants qui écouteront éventuellement, j'ai fait ma thèse en 7 ans. Donc, c'était très long, mais ça a été une... à la fois un inconvénient, mais en même temps une opportunité. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de bourse de thèse, mais du coup, Rossi m'a mis sur des contrats, en fait, sur lesquels j'ai travaillé, un contrat européen. Et du coup, c'est bien parce que ça a rempli mon CV, en fait. Donc, c'était...
C'est ce que je te demandais, parce que pour faire 7 ans de thèse,
ouais,
il fallait quand même avoir une source de revenus par ailleurs.
Voilà, ouais.
Donc, en fait, c'était une reconduction de contrat qu'il avait...
J'ai eu un contrat avec Mario Rossi, donc sur un projet européen qui était vraiment sur la notation des corpus à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des corpus de paroles, donc un signal acoustique, ce qu'il fallait baliser, en fait, sur lesquels il fallait identifier le début et la fin des phonèmes. À l'époque, on avait des outils qui mettaient à peu près 10 minutes pour afficher un mot, donc c'était très, très long.
Très long et très fastidieux.
Voilà, c'est l'évolution des outils.
Ouais. Exactement, ouais. Mais ça m'a permis de développer des compétences qui sont un peu oubliées maintenant, qui sont vraiment l'expertise du signal de parole, en fait. C'est-à-dire que quand je vois un signal de parole, je sais ce qu'il y a dedans, quoi, en fait. Donc j'ai travaillé beaucoup et longtemps là-dessus. Et par la suite, j'ai eu des contrats avec Alain Marchal, à l'époque, qui travaillait beaucoup en articulatoire, lui, mais qui allait chercher pas mal de contrats. Et on a eu des contrats avec Thomson, en fait, pour... tester du matériel de communication. J'ai eu un contrat sur de la parole hyperbare. C'était une expérience vachement sympa où on allait enregistrer et faire des tests de perception sur des barges au large, en fait, autour de Marseille, pour enregistrer de la parole en milieu hyperbare, c'est-à-dire avec des gaz, en fait, qui permettaient de respirer en profondeur, mais qui déforme la parole, en fait. Donc, c'est de l'hélium, en fait, et qui déforme complètement la parole. Donc, on travaillait sur ces aspects-là. Donc, en fait, ça m'a permis, pendant toute ma thèse...
Rire aussi,
qui fait rire énormément, ouais, voilà, qui donne une voix de Donald, en fait, donc voilà, et qui modifie pas mal la parole. Et en fait, du coup, ça a duré longtemps, effectivement, mais ça m'a permis de travailler sur des choses assez variées, en fait, et qui m'ont intéressée. Mais du coup, j'ai mis assez longtemps. J'ai fait ma thèse sur... les groupes de consonnes. Donc ça peut paraître effectivement aujourd'hui assez obscur. Mais là aussi, j'ai énormément appris. Ça m'a permis de... Moi, j'aime bien d'aller dans le détail, regarder un peu comment...
Surtout d'être en prise avec les données, en fait, finalement, voilà. Les données brutes. Hein. Clairement, c'est quelque chose qu'on observe aussi de manière générale dans d'autres domaines. Ouais. C'est que de plus en plus, il y a des traitements complexes. Et finalement, on n'a plus de prise avec les données réelles. Mmh. On voit, pour reprendre un exemple que je connais mieux, qui est celui de l'électrophysiologie, on voit des représentations, maintenant, c'est des matrices de corrélation avec des codes couleurs, comme on voit toujours. Ouais. Et en fait, on voit de moins en moins de potentiel d'action.
Ouais. Ouais, ouais.
Et au final, quand on a des étudiants qui viennent de faire les manips, pour certains, ils n'ont plus cette capacité d'observation et presque d'écoute aussi, parce qu'on peut les entendre.
Mais clairement, ça c'est...
Et donc, il y a un problème de prise de distance avec le réel, avec la donnée brute primaire.
Quoi. Ouais. Mmh. Et, ça, je pense c'est que clair. C'est moi, on le voit beaucoup chez les doctorants, où on voit parfois qu'il faut, avec les outils automatiques, ils extraient effectivement beaucoup d'informations, beaucoup de données, et moi, des fois, je regarde, je me dis, mais ça, c'est pas possible, ce que tu as extrait comme données, c'est pas possible. Et quand on leur dit d'aller vérifier dans le signal, en fait, là, ça coince, parce que c'est, c'est du travail un petit peu de fourmi. Ça devient compliqué, en fait, pour les étudiants, d'aller regarder vraiment la matière, quoi, d'une certaine façon.
Tout à fait, comme dit Vincent, c'est un problème très général.
Ouais. Ouais, je savais
en électrophysio chez l'homme, moi j'ai passé des heures à regarder des essais pour détecter des artefacts. Et maintenant, ça peut être fait de manière automatique et donc... étudiants sont assez réticents.
Ça, c'est au cours de l'analyse, mais en fait, le problème se pose même au cours de l'acquisition même du signal.
Ouais.
Parce qu'on a de moins en moins une visualisation de ce qu'on est en train d'acquérir.
Tout à fait. Mmh. Ouais. Et donc, ça, c'était pendant ta thèse.
Ouais.
Et ensuite, tu es partie postdoc chez Ouli à Genève.
Pendant 4 ans, voilà.
Pendant 4 ans.
Ouais. Alors ça, c'était un domaine... Je me suis un peu, dans mon parcours, laissé un peu... À part cette première décision, je me suis un peu laissé balancer, pas au hasard, mais là, il se trouve, en fait, qu'à la fin de ma thèse, il y avait cette offre de postdoctorat, en fait. Et du coup, j'ai été là-bas, j'ai été prise là-bas, et c'était un domaine complètement nouveau pour moi, puisque je ne connaissais pas du tout linguistique. J'avais pas non plus travaillé sur la perception, en fait, très peu. Et je ne connaissais pas ce domaine, en fait. Donc là, pour moi, ça a été effectivement extrêmement enrichissant. Ça permettait à la fois d'acquérir de nouvelles méthodologies et de nouveaux paradigmes que je ne connaissais pas du tout, mais aussi de regarder en fait l'objet sur lequel je travaillais d'une façon complètement différente. Ça, c'est un petit peu quelque chose qui est complexe en fait dans le travail sur la parole, c'est qu'on a souvent des gens qui travaillent complètement en perception, complètement en production, alors qu'en fait on se rend compte que le lien entre les deux, il est fondamental pour la compréhension des deux en fait. Donc moi d'avoir cet apport en plus, ça permet systématiquement maintenant, même si je fais pas vraiment de la psycholinguistique, mais d'avoir ce regard en fait un peu systématiquement sur voilà, c'est ça qui a été produit, mais comment ça a été perçu. Et donc voilà, ça m'a ouvert quand même pas mal d'horizons aussi. Donc j'ai travaillé beaucoup plus sur ces aspects-là en fait. Où on travaillait beaucoup sur les unités de perception, là, en fait, sur quelles sont les unités qui nous permettent de... C'était vraiment sur la reconnaissance des mots. Donc, c'était des questions qui se posaient à l'époque. Quelles sont les unités qui nous permettent d'accéder aux mots, quoi, en fait. Donc voilà, ça a été pendant 4 ans. C'était extrêmement enrichissant, à la fois scientifiquement, mais aussi humainement, parce qu'on était une petite équipe. Et ça m'a permis de découvrir aussi un autre système. L'Université de Genève, ça fonctionne différemment, quoi, en fait. Et puis humainement, parce que Ouli est un personnage qui est assez fascinant, en fait. Donc, très dynamisant, en fait, avec des questionnements très intéressants. Donc ça a été très enrichissant. J'étais à l'époque, Noël Nguyen était là-bas aussi en même temps que moi, en fait, à Genève. Donc on avait toute une équipe qui était, une petite équipe en fait, mais qui était... Ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on était une petite équipe, donc on faisait tout en même temps aussi. Il n'y avait pas vraiment d'aide informatique, donc on résolvait ces problèmes-là ou ces problèmes expérimentaux, etc. Et plus on a des gros laboratoires, plus finalement on a des gens qui se chargent de ça. Donc là aussi on met moins les moins les mains dans le cambouis, en fait. Donc c'est...
Peut-être que les petites équipes aussi favorisent les collaborations à l'intérieur. Ou alors vous aviez vraiment vos projets séparés.
Non, il y avait quand même beaucoup. Enfin, on discutait beaucoup entre nous quand même. Ouais, il y avait quand même. Puis moi, je savais effectivement, on est une petite équipe. Moi, je savais extrêmement bien ce que faisaient les autres, en fait, sur quoi travaillaient les autres. Alors que là, dans le laboratoire, même en tant que directrice, il y a des choses que je ne connais pas forcément très, très bien, quoi, et qui m'échappent encore un petit peu. Quoi, en fait. Donc ça, c'était très stimulant, ouais, effectivement.
Et peut-être que donc, par rapport à cette première partie, tu pourrais aussi nous dire quels sont les scientifiques qui ont marqué ton parcours. Donc on a compris que... Uli Frauenfelder était clairement l'un d'entre eux. Est-ce qu'il y en a eu d'autres?
C'est vrai que mon directeur de thèse, Mario Rossi, m'a marqué profondément parce que c'était quelqu'un qui était très difficile à suivre, qui était vraiment dans la complexité. Ses cours étaient très complexes, mais un vrai scientifique, moi, je trouve, quelqu'un qui est d'ailleurs après sa retraite. Et, il a toujours été à la pointe des nouvelles choses, en fait, de ce qui sortait, des nouvelles technologies. Et alors, il avait peur de rien, quoi. Il mettait les mains dans le cambouis, lui, systématiquement. On se rappelle tous, dans notre promo, le jour où il est arrivé dans un cours sur la perception, et on avait fait un cours la fois d'avant. Il est arrivé en nous disant: tout ce que je vous ai dit, c'est faux. Il y a un papier qui venait de sortir qui remettait tout en question, et hop, il est reparti sur quelque chose de complètement nouveau. Donc c'était très stimulant, quoi, en fait. C'était vraiment très intéressant. Donc Mario Rossi, Alain Marchal aussi, du laboratoire, qui m'a profondément marqué aussi, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé vers la fin de ma thèse, en fait. Donc qui lui était beaucoup plus orienté vers c'est quelqu'un qui allait chercher des projets aussi, donc ça, c'était ça nous a permis de voir, en fait, ce dynamisme aussi pour aller chercher des projets, pour répondre à des appels d'offres. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Après, en dehors du laboratoire, il y a j'ai travaillé dans le cadre d'un projet européen, du coup, pendant ma thèse. Donc c'était intéressant parce qu'on avait effectivement différents laboratoires qui étaient présentés. Il y avait les gens de ce projet, donc notamment les Anglais, donc Adrien Foursin, qui est quelqu'un qui a marqué aussi l'évolution, et l'évolution de notre discipline, et qui était très engagé dans la constitution des bases de données, en fait, qu'on enrichissait pour pouvoir avoir des données. Et ça, c'était le début aussi. Ces bases de données qu'on enrichissait servaient normalement à fournir de la matière pour l'évaluation des systèmes de traitement automatique, notamment de reconnaissance automatique de la parole. Donc il y avait les mêmes phrases, par exemple, les mêmes corpus qui étaient enregistrés dans différentes langues européennes, et sur lesquelles travaillaient étaient évalués les systèmes de reconnaissance automatique. Et ça, c'était nouveau pour moi aussi. Hein. C'était la première approche, le premier regard vers les systèmes automatiques. Donc ça, c'était particulièrement intéressant. Et il se trouve, après, j'ai participé avec Noël Nguyen sur un autre projet européen, et qui m'a permis de connaître Sarah Hawkins, qui venait d'Angleterre aussi, et qui a développé des formes de théorie, en fait, sur l'importance des détails phonétiques fins, en fait, dont on se servait, en fait, pour produire la parole, et qui a permis, dans ce projet européen, de mettre en relation, disons, des aspects phonétiques et des aspects expérimentaux, en fait, assez complémentaires, en fait, sur des types de paroles qui n'étaient pas des types de paroles utilisées habituellement. Donc ça, c'était nouveau, et c'était extrêmement intéressant. Donc voilà.
Après Genève, donc après ces 4 années de post-doc,
j'ai candidaté au CNRS.
T'as candidaté au CNRS. Voilà. Donc t'avais la volonté de revenir dans un laboratoire.
J'ai beaucoup hésité, parce que j'ai hésité entre le laboratoire de Lyon, qui s'appelle Dynamique du langage, où il y avait Jean-Marie Humbert à l'époque, en fait, qui avait des thématiques qui m'intéressaient particulièrement, parce qu'il travaillait beaucoup sur les comparaisons des langues. Mmh. En fait, que j'avais pas trop approché, mais c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup. Donc j'avais, voilà, j'ai hésité entre le laboratoire des milieux du langage et revenir en fait à Aix-en-Provence. Et bon, finalement, j'ai mis en premier le choix pour Aix. Donc je suis rentrée en 98 au LPL, en fait, à ce moment-là. Okay. Où je suis revenue au laboratoire en essayant justement d'impulser. J'avais créé un groupe, en fait, justement, sur les aspects perception de la parole. Et l'idée, c'était d'apporter un petit peu des... le regard de la psycholinguistique sur ce qu'on faisait.
Il y avait déjà une diversité quand même au LPL.
Oui, mais pas quand je suis revenue. Elle est arrivée juste après, en fait. Ouais. L'intégration de l'équipe psycholinguistique, c'était quasiment presque au même moment. Mm-hmm. Donc, effectivement, il y a une partie de l'ancien LPC, alors je ne sais plus, mais qui est venue au laboratoire avec Joël Pinte, justement, voilà. Avec Stéphanie
Cheryl Ducrot. Aussi, non
Cheryl, voilà, Stéphanie Cheryl Ducrot, voilà. Mm. Et d'ailleurs, j'ai fait partie de cette équipe psycholinguistique pendant quelques années, effectivement. Mm. Donc, qui permettait de... C'est l'époque, en fait, où le laboratoire est passé d'un laboratoire de phonétique, en fait, à quelque chose de plus large, parce qu'on a aussi intégré à cette époque-là des gens qui venaient de linguistique française, donc qui étaient des linguistes qui travaillaient sur le discours, par exemple. Mmh. Et aussi l'équipe des gens qui travaillaient sur le créole. Donc toute cette période-là, à la fin du 20e, entre guillemets, ça fait drôle de dire ça, ça fait un peu mal, mais à la fin du 20e, effectivement, enfin dans les années 80, fin des années 90, 90, voilà, c'est ouais. Mieux, ouais. Sont arrivés, c'était l'époque où c'était Bernard Teston qui dirigeait le laboratoire, sont arrivés des gens, en fait, qui n'étaient pas du tout des phonéticiens. Donc c'était la première intégration, et du coup, les premiers contacts qui ne se sont pas faits tout de suite, en fait, entre les gens, en fait.
Il a fallu coexister un petit peu avant que...
Oui, il faut du temps, ouais, en fait. Il faut du temps avant que les gens comprennent un petit peu ce que font les autres. Mm-hmm. Et ils trouvent un intérêt pour leur propre recherche et aillent chercher des collaborations. Il faut toujours un peu de temps. Et ça se fait aussi toujours un petit peu, je ne dirais pas au hasard, mais des fois ça prend, des fois ça ne prend pas, en fait. Voilà, mm-hmm. Donc il faut à la fois essayer d'impulser un peu ça, mais en même temps laisser faire, quoi, en fait. Difficile de forcer, en fait, des collaborations.
Donc, on peut le favoriser, mais on peut pas l'imposer.
Voilà, exactement, c'est ça. Ouais. Donc, ça se fait. Mais ça s'est bien fait au laboratoire, en fait. Hein. C'est quand même quelque chose qui s'est bien fait. Ouais.